Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est très heureux d'être avec vous pendant ces 3h jusqu'à 15h. Et aujourd'hui, autour de la table, vous retrouverez avec un bonheur non dissimulé Rémi Barré. Bonjour Rémi.
Bonjour Estelle et bonjour à tous.
Il a dormi dans le studio cette nuit. Voilà, c'est Thierry Moreau, journaliste média, mais pas que. Bonjour Thierry.
Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous.
La journaliste indépendante de Dijon, Emmanuelle Dancourt. Bonjour Emma.
Bonjour tout le monde.
Et le journaliste maison, bien sûr. C'est le grand jour, Daniel. Daniel Riolo.
Quel grand jour, parce que
c'est Barça PSG.
On est de retour enfin dans Estelle Midi ensemble. C'est bon, 2 semaines que je ne t'avais pas vu.
Mais je me suis fait opérer de l'œil.
Ah oui. On s'inquiète.
J'ai une longue convalescence.
On faisait un pendant entre nous.
Non, ça va, merci. Merci beaucoup. Allez, au sommaire, aujourd'hui dans Estelle Midi, 3/4 des Français mécontents de l'action d'Emmanuel Macron. D'accord, pas d'accord. Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16 et sur l'appli RMC. À midi et demi, on parlera de Carlos Tavares, le patron de Stellantis, qui pourrait toucher une rémunération de 36 millions d'euros. Est-ce indécent ? À 13h, le président de la SNCF qui octroie de gros avantages aux salariés du groupe pour éviter les grèves. Est-ce logique ou choquant ? À 14h, l'explosion du nombre de loyers impayés en France, plus 300%. En 3 ans, faut-il expulser sans délai les locataires indélicats? Et puis à 14h30, il y aura RMC Conso avec Charlotte Méritant. On parlera de l'échange de maisons pour les vacances. Est-ce vraiment un bon plan? Et puis on vous fait gagner de très 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 belles places pour les Jeux Olympiques, Rémi.
Oui, demain, nous serons à J-100 des Jeux Olympiques de Paris et nous vous offrons 100 places sur RMC si vous cherchez des places pour vous-même, pour votre famille, vos proches. C'est ici qu'elles sont à gagner dès aujourd'hui dans chaque émission d'RMC. Donc vous allez pouvoir emporter vos 2 places pour assister aux épreuves des JO. Ça peut être la cérémonie d'ouverture, la finale du 100 mètres, alors, le judo, le tennis, la natation.
Si elles sont aussi belles que celles qu'on a fait gagner hier soir dans l'after, c'est sûr que c'est pas un petit cadeau. Hein.
Mais c'est pas
énormissime.
Un petit cadeau. Absolument.
On a gagné quoi ?
Les finales de la natation.
Et
la veille et celle de l'athlé. Tu te rends compte?
Et
c'est
bah oui,
genre c'est les places que tout le monde s'arrache. Quoi.
Nous aussi. Bah nous. Et donc, bravo Rémi. Vous envoyez Paris 2024 par SMS au 732-16. Paris 2024 par SMS au 732-16.
RMC Estelle Midi.
Midi 7 sur RMC, on démarre Estelle Midi avec l'actualité du jour et c'est ce sondage IFOP qui révèle que 74% des Français, les 3/4 donc, se disent aujourd'hui mécontents de l'action d'Emmanuel Macron. Le bilan du président de la République est jugé négatif dans tous les secteurs, Rémi, notamment celui de l'économie.
Et dans le détail, 88% des personnes interrogées portent un regard négatif sur l'action du chef de l'État dans la lutte contre les déficits. Ils sont 84% à désapprouver son action sur le pouvoir d'achat, 77% sur la réforme des retraites. Au-delà, tu l'as dit Estelle, c'est l'ensemble du bilan d'Emmanuel Macron qui est critiqué. 79% des Français sont mécontents de son action en matière de maîtrise de l'immigration, 57% en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, 69% désapprouvent sa politique de défense de la laïcité, 72% jugent que l'image de la France à l'étranger est aujourd'hui dégradée. Et plus le temps passe, moins les engagements pris par le candidat Macron de 2017 semblent devoir être tenus selon les personnes interrogées. Si en avril 2018, dans une précédente étude IFOP, 57% des Français estimaient que le chef de l'État respectait ses promesses de campagne, ils ne sont plus que 26% à le penser aujourd'hui. Et si la candidate macroniste aux européennes de juin est aujourd'hui au plus bas dans les sondages, on en a parlé hier, ouais. 16% des intentions de vote, ce n'est certainement pas un hasard. Le RN est en tête dans les sondages et il rassemble aujourd'hui dans les intentions de vote davantage de cadres et autant de retraités que le camp d'Emmanuel Macron.
Qui l'eût cru ? Voilà, il y a seulement quelques années, 74% des Français mécontents de l'action d'Emmanuel Macron. D'accord, pas d'accord, Thierry Moreau.
Bah d'abord, les Français sont toujours des râleurs. Donc, ils ne sont jamais contents des personnes qui sont en place. C'est quelque chose d'un peu régulier et fréquent. Bon, ça veut dire qu'il y a quand même 26% des gens qui sont, si on regarde le verre, un quart plein.
T'es fort en maths,
on voit qu'il y a 26% des gens qui sont favorables à son action. Je rappelle que François Hollande était tombé à 13%, Sarkozy est descendu jusqu'à 28% et que Emmanuel Macron, le même, était tombé jusqu'à 22% au cours de son premier mandat. Donc voilà. Alors la question qu'il faut se poser, c'est pas tellement ces chiffres-là et ces évolutions-là. Il y a des moments où effectivement l'opinion est un peu remontée, d'autres moments où ça va mieux.
Presque un Français sur deux qui est très mécontent.
Oui. Sauf que, est-ce qu'on élit un président pour qu'il soit populaire ou est-ce qu'on élit un président pour qu'il fasse les réformes qui sont nécessaires au pays, quitte à prendre des décisions impopulaires? C'est ça la vraie question. Et moi, je pense que depuis qu'on a adopté le quinquennat et en plus qu'on l'a lié aux élections législatives, il y a une sorte de... l'exécutif est prisonnier de sa prochaine réélection. Alors là, il n'a pas de réélection, mais son premier mandat était évidemment contingenté par le fait d'éventuellement être élu. Et puis là, il a plutôt envie que quelqu'un lui succède qui soit dans la même veine. Donc tant qu'on aura ce système-là et qu'on n'aura pas, on ne sera pas revenu avec un septennat non renouvelable, c'est-à-dire où le président qui est élu fait vraiment... Il a les mains libres pour pouvoir faire...
Il a le temps de faire ce qui
le
ce
temps, et puis surtout faire des choses éventuellement impopulaires. Et puis tu parlais des promesses non tenues. Je rappelle quand même que la réforme des retraites, c'était une promesse de campagne et qu'il l'a tenue contre vents et marées. Après, on peut être d'accord, pas d'accord, c'est un autre débat. Mais donc, je pense que...
Celle de 2019 ne ressemblait pas du tout à celle de 2023.
Alors, la promesse n'était pas tout à fait conforme au résultat, je suis d'accord avec vous. Moi, j'aurais préféré la promesse de 2019, de 2017 à ce qui est arrivé finalement dans les tuyaux. Mais tant qu'on aura cet objectif de la réélection, tous les hommes politiques qui sont en place nous promettent monts et merveilles, ensuite font pas ce qu'ils ont promis et pensent surtout...
Parce que ça existe en fait de pas prévoir une réélection? C'est dans quel monde en fait?
Eh ben dans un système où on aura un septennat non renouvelable.
Et là, c'est pas la même chose?
Bah non.
Ah ben non.
Là, un septennat non renouvelable.
Ben oui, bien sûr.
Oui, mais c'est la même chose parce
ben
qu'en
non,
fait,
pas du
après,
tout.
Bah, si vous me laissez vous le dire, je vais vous l'expliquer. C'est exactement comme le cas de figure du moment qui dit que Macron n'ayant pas de suite. Je me souviens quand on disait il va se lâcher parce que il est plus libre maintenant car il n'y a pas de il va pas pouvoir se représenter
mais
derrière.
Il est abîmé par son premier quinquennat.
Sauf que et puis en fait
c'est trop court.
Mais peu importe si c'est pas pour lui, ce sera pour son camp. Donc en fait, on croit toujours que si c'est pas renouvelable, t'es plus libre, tu fais réellement les réformes, même quand t'es impopulaire, si cela. Mais non, parce qu'après, tu veux pas abîmer ton camp. Il y a des gens qui te disent bah oui, mais on va pas ruiner l'héritage. Il y a des gens qui veulent prendre la suite. On est toujours prisonnier de ce qu'on fait, de son camp. Pourquoi tu fais non avec la tête?
Bah non, parce que je pense qu'il y a des hommes politiques, notamment par le passé, qui ont dit, moi si je suis... Alors ils n'ont pas été élus, ils n'ont pas été confrontés.
Si tu as un exemple, je veux bien, parce que moi je vois pas...
Michel Rocard, par exemple, il a dit que la réélection n'était pas son sujet.
Mais non, mais Michel Rocard,
il a été nommé
y a des hommes contre la volonté de François Mitterrand, il a pris un coup de chausson au bout de 3 ans.
Il y a des hommes politiques...
Et ils ont pris une débâcle législative.
Il y a des hommes politiques qui pensent d'abord à faire les réformes nécessaires avant de songer à l'éventuelle réélection, alors, la leur ou celle de leur camp. Alors, je suis désolé, ça existe.
Et Emmanuel Dancourt, est-ce que vous trouvez que les Français sont trop durs avec Emmanuel Macron? 3/4 des Français mécontents de son action.
Ben non, moi je ne les trouve pas trop durs. Je trouve que le sondage est assez juste. Moi je prends un domaine, quel domaine que je maîtrise le mieux, qui était celui de la grande cause du quinquennat, des quinquennats, c'est-à-dire les violences sexistes et sexuelles, les violences faites aux femmes, et pas que. Si on prend juste ce dossier-là, on voit bien que c'est un dossier où il y a eu des choses de fait, ce serait quand même malhonnête de dire qu'il n'y a rien eu de fait, mais où tout reste à faire. Si on prend les féminicides, on est sur une stagnation à 130 féminicides par an depuis 2017, on n'a pas réussi à faire baisser le chiffre. Si on prend les moyens, les budgets, c'est toujours le plus petit budget de l'État, hein, les violences sexistes et sexuelles, là on va encore nous en enlever 10 millions suite à la baisse.
Oui, mais on ne peut pas juger l'action d'un président sur un seul domaine.
Moi,
en fait.
Moi je prends là-dessus.
Mais ce domaine n'apparaissait pas, Emma, dans les préoccupations des Français. Je ne dis pas que ce n'est pas important.
Non, mais ce que tu soulèves est un problème.
Oui, bien sûr.
Tu vois que c'est un domaine qui nécessiterait, ça a été calculé par la Fondation des femmes, ça nécessiterait 2,6 milliards d'euros. Et aujourd'hui, c'est le plus petit budget qui soit. Donc, on voit que ça n'avance pas. On constitutionnalise l'IVG, mais on donne pas aux femmes le moyen d'y avoir accès parce qu'il y a plein d'endroits où on n'y a pas, accès.
Mais tu peux pas dire un président, c'est par exemple juste l'immigration.
Je prends un exemple.
Juste les droits.
Non, tout à fait. Je suis d'accord.
Les droits des femmes ou juste le social ou l'économie. En fait, c'est un global.
Je prends un exemple. Je prends juste cet exemple-là pour dire cet exemple-là, je trouve, symbolise assez bien, mais on peut aller dans tout un tas d'autres domaines, symbolise assez bien ce qu'on peut reprocher à Emmanuel Macron. Voilà. Si je zoome sur cet exemple-là, donc je trouve les chiffres, je ne suis pas très surprise, moi, par ces chiffres, honnêtement.
Mais quand je disais les Français sont-ils trop durs, c'est surtout, est-ce qu'ils sont ingrats? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que, de toute façon, quoi qu'ils fassent, Emmanuel Macron, pour le coup, les Français ne s'en souviennent pas. Par exemple, la taxe d'habitation, c'est vrai qu'il y a, voilà, tout Il n'y a plus aucun Français, sauf ceux qui ont des résidences secondaires, qui ne payent plus la taxe d'habitation. C'était quand même plutôt un gros poste de dépenses pour les Français. Et ça, par exemple, personne ne le voit. On a l'impression que
malheureusement.
Non, mais quand il fait quelque chose de bien, mais personne ne le voit. L'échec dont beaucoup de Français ont bénéficié, tout le monde s'en fout.
En fait, ce que tu dis est juste et on peut même aller plus loin. Bon, je reviens juste sur le chiffre, le fameux calcul. On va dire que Macron retombe sur son socle électoral de premier tour avec 26% Oui, le fameux calcul 75-26, comme tu as fait Thierry. Bon, c'est son socle du premier tour. Très bien. Après, j'en arrive à ce que tu étais en train de dire, Estelle. Effectivement, moi je veux bien l'usure du pouvoir. Je veux bien que sa tronche ne revient plus à personne. Ce qui a l'air d'être le cas quand on entend la plupart des gens, soit à travers les sondages, soit même éditorialistes politiques. Mais pardon, mais c'est 88% qui sont pas contents du volet économique et social, alors qu'il y a eu le quoi qu'il en coûte qui a distribué de l'argent dans tous les sens, l'échec dont tu as parlé distribué dans tous les sens, que la France est toujours le pays où il y a le plus d'aide. Bon, ok, ouais, il y a probablement matière à faire mieux. Je sais pas qui dans la classe politique pourrait faire beaucoup mieux que ça, mais je trouve quand même qu'effectivement, il y a une vraie ingratitude. Alors, je veux bien qu'il y ait un délit, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a une sale gueule.
C'est la forme. C'est l'arrogance.
C'est ce que j'ai dit. C'est pas le problème. C'est cet hyper-président qui va tout s'exprimer sur absolument tout et n'importe quoi.
Est-ce qu'en parallèle à ce sondage-là, à ces chiffres-là, on peut mettre celui des personnalités politiques des Français, celle qui plaise le plus. Bah, comme par hasard, le point commun, donc il y a Édouard Philippe, il y a même le comeback de François Hollande.
Oui, c'est ceux qui sont plus aux affaires.
Il y a même Ségolène Royal. Oui. En fait, le point commun, ce sont des gens qui n'exercent pas le pouvoir, ou qui l'ont exercé, ou quand ils l'ont exercé, ils étaient hyper impopulaires.
Mais c'est vrai.
Et là, maintenant, ils apparaissent en haut. Donc là, pardon, je vais rejoindre Thierry, mais ce genre de sondage, franchement, c'est presque indécent.
Prenez l'exemple d'un président omniprésent. On a reproché à Jacques Chirac, au moment des cohabitations, etc., de ne plus exister, si ce n'est à l'international.
Et il était populaire.
Ensuite, on a eu ça. Après.
Après.
Ensuite, on a eu Sarkozy.
Après, on a eu
Sarkozy qui était le président omniprésent, tout le temps là, à la télé, tout le temps. On lui a reproché. On a eu Hollande ensuite. Qui était jamais là.
Tous.
On le voyait jamais.
Pareil.
Et aujourd'hui, on dit la même chose de Macron.
Mais en fait, la problématique, c'est peut-être les sondages. En réalité, ça vaut quoi ces sondages? On sait très bien qu'au final, ça ne vaut pas grand-chose. C'est une fausse photo d'humeur à un instant.
Je suis pas d'accord. Enfin, on connaît tous des gens, évidemment, qui sont macronistes, qui ont voté Emmanuel Macron, etc. Moi, ça fait quand même belle lurette que j'ai pas entendu quelqu'un défendre Emmanuel Macron, c'est à dire, moi, il me plaît, moi, son action me va, etc. Ce qu'il fait, c'est bien.
Oui, donc les chiffres sont justes, alors.
Oui, c'est pour ça. Non, mais tu dis, on doit remettre en cause les sondages.
Non, mais on sait bien que les sondages sont quand même, on a beaucoup parlé lors des dernières
présidentielles.
Beaucoup
de gens autour de toi qui te disent, Macron est génial.
Non, c'est de plus en plus rare.
C'est de plus en plus rare. Alors que, autour de toi, tu dois avoir en majorité des gens qui votent
Emmanuel Macron. Thierry avait raison, c'est très culturel français.
Oui, mais tu vois, quand tu vois que le RN, par exemple, est aujourd'hui le parti numéro un des cadres, jamais t'aurais pu penser ça, mais même il y a 3 ans. Et des retraités, mais jamais t'aurais pu penser ça.
C'est un effet d'optique, il a jamais exercé le pouvoir, donc on verra le jour où ils seront au pouvoir.
Contre lequel personne ne peut lutter, effectivement, ils n'ont jamais été.
Donc c'est un effet d'optique.
Non, mais ils dirigent des communes quand même.
Mais c'est pas du tout pareil.
Je sais bien que ça n'a rien à voir. Mais quand ils n'avaient pas de communes, on leur rétorquait vous n'avez jamais exercé le pouvoir, vous n'avez même pas une commune. Oui. À partir du moment où ils ont eu des communes, on peut pas leur dire encore oui, mais vous n'avez jamais rien exercé. Même si je vais aller dans ton sens, ça n'est pas la même chose. Toujours est-il que petit à petit, c'est en grignotant comme ça des parcelles de pouvoir qu'ils sont aujourd'hui devenus prétendants. Au plus gros des pouvoirs. Donc, il faut pas non plus nier cet aspect-là. En revanche, tu as le droit de te poser la question de ce qu'ils feraient s'ils étaient à la place du gouvernement actuel et de jeter un coup d'œil à leur programme économique et social qui est franchement très variable. Un coup chose, un coup autre chose. On a l'impression que les gens vont vers eux uniquement pour l'aspect ordre dans la société.
Pour l'aspect coup de pied dans la fourmilière aussi. Voilà. Sébastien est avec nous. Il nous a appelé au 32-16 depuis Monistrol sur Loire. Il est conseiller en gestion du patrimoine. Bonjour Sébastien.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, Sébastien. Sébastien, est-ce que vous faites partie de ces 74% de Français mécontents de l'action d'Emmanuel Macron?
Alors mécontent, c'est pas tant mécontent. Après, moi j'aime bien analyser la situation dans son ensemble. Et aujourd'hui, en fait, il paye les frais de ce qu'il a semé, tout simplement. Il suffit de regarder, par exemple, les réactions qu'il a eues dernièrement face à son homologue russe, où l'Europe s'est levée devant lui et a dit « Oulala, mais on suivra pas Monsieur Macron ». À un moment donné, je pense qu'il y a des choses à voir sous une autre posture. L'Empire français, hein, il a été dissous, Napoléon est mort depuis longtemps, il faut pas essayer de le remettre en place. À un moment donné, je pense qu'il faut prendre les temps et les aboutissants des situations. Monsieur Macron, il a eu sa chance. Il a fait des choses bien, c'est évident. Aujourd'hui, par contre, je pense que ce que les gens ressentent, c'est qu'il n'y a pas de changement réel par rapport aux autres politiques qui ont été menées depuis 40 ans. Donc au bout d'un moment, comme ils se sentent trahis, eh ben, Daniel Riolo l'a bien dit tout à l'heure, on est monté de l'extrême. Et pourquoi on a cette montée-là? Parce que depuis 40 ans, les gens qu'on a à l'électorat, ils ont l'impression d'être volés, mentis. Et aujourd'hui, il ne faut pas se surprendre.
Et ils veulent essayer quelque chose qu'ils n'ont jamais eu. Oui, ça s'est fait dans d'autres pays.
Mais en fait, quand on dit mécontent, moi je crois que ce n'est pas mécontent, je crois que c'est déçu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors du premier quinquennat, les premières images d'Emmanuel Macron, je veux dire, quand il marche devant la pyramide du Louvre, etc., il y a quand même une vraie fierté. Tu te dis, il a de la gueule, notre
il
président.
Il devait renverser la table.
Je parle de ça les premiers jours.
C'était la même chose quand Sarko a été élu.
Ouais,
aussi,
mais non, mais au départ, tu vois Macron et tout ça, il y a une prestance. Tu es assez fier. Tu te dis, ouais, c'est un jeune président. Il est en train de se passer quelque chose en France. T'es pour, t'es contre, mais en tout cas, voilà, tout le monde était plutôt. L'image est plutôt positive. Et donc, je pense qu'en fait, c'est à la hauteur de la déception aujourd'hui parce que finalement, personne n'est content. Les plus riches, ils disent, je parle pas des milliardaires, mais les plus riches, ils disent, on a trop d'impôts et pour quel résultat? Jamais les services publics n'ont été aussi délabrés. Les plus pauvres, ils disent, mais attendez, on peut même plus vivre de notre travail et en fait, on s'appauvrit. Les classes moyennes, c'est pire que tout. Donc, en fait, personne n'est content. Il a, en fait, la politique du un peu. Du tout en même temps, et elle n'a satisfait personne. Et c'est ça son problème.
Alors qu'il
il y a
devait
pas
faire
une
la
seule...
synthèse entre des gens qui n'étaient pas d'accord, entre la droite et la gauche gouvernementale, qui étaient aux affaires depuis des années. Lui, il devait faire une synthèse entre ces deux camps.
Ouais, il n'a jamais réussi à trancher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a que des mécontents. Finalement, il n'a
mais
fait
aucun. Mais je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas réussi à trancher, parce qu'il l'a fait, la synthèse. Sauf que les sources de mécontentement, elles sont sur différents dossiers. Si jamais on analysait là, qu'est-ce qui nous déçoit dans l'action d'Emmanuel Macron? Il est possible que Emma a exprimé quelque chose de particulier, mais peut-être qu'on aura des points où on sera d'accord et des points sur lesquels on serait déçu. On pourrait faire le test entre nous, ne serait-ce que là. Je pense que tu valides pas à 100%, on valide pas tout ce qu'il y a fait à
100%. C'est impossible de valider à 100% de toutes les manières.
Et à la fin, ça dégage ce mécontentement généralisé.
Alors notre invité sur ce débat, c'est Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonjour Arnaud.
Oui, bonjour Estelle, bonjour à tous.
Bonjour. Arnaud, première question, est-ce que vous êtes étonné de l'ampleur de ce mécontentement vis-à-vis d'Emmanuel Macron?
Pas vraiment, parce que globalement c'est un président qui certes a été réélu en 2022, mais qui a depuis maintenant pratiquement 2018, c'est-à-dire depuis la crise des Gilets jaunes, un souci avec l'opinion publique. Alors en plus, se greffe là-dessus le fait que ça fait maintenant presque 7 ans, c'est-à-dire un septennat qu'il est au pouvoir, et donc comme tout président réélu, on a connu ça avec François Mitterrand, on a connu ça avec Jacques Chirac également par le passé, le général de Gaulle d'ailleurs l'avait connu lui aussi. Il y a un phénomène qui est un phénomène naturel en politique, et le phénomène d'usure. Donc inévitablement, si vous voulez, se retrouver aujourd'hui avec une cote d'insatisfaction certes très importante, ce n'est pas pour le coup une véritable surprise pour qui analyse la vie politique un peu de près. Après, c'est vrai que la difficulté, c'est que si vous voulez, il y a au moins 3 enjeux sur lesquels aujourd'hui Emmanuel Macron est en difficulté. Un enjeu où il a toujours été en difficulté, c'est l'enjeu régalien, la question de l'ordre public, où là, manifestement, il y a un électorat, notamment à droite, mais pas seulement à droite, qui considère que malgré les efforts, j'allais dire, de communication de son ministre de l'Intérieur, le compte n'y est pas. Il y a un deuxième enjeu qui est l'enjeu international, où on a un président de la République qui a pris de très nombreuses initiatives maintenant depuis plusieurs années, et notamment depuis plusieurs mois avec la crise en Ukraine, mais qui donne l'impression parfois d'être un peu isolé sur la scène internationale. Et un troisième enjeu qui, à mon avis, est l'enjeu le plus embêtant pour lui, c'est l'enjeu, j'allais dire, de la gestion publique, de la gestion des finances publiques.
Ah bah oui.
Là, si vous voulez, c'est là qu'il risque de décrocher. C'est-à-dire que l'électorat de centre-gauche ou de centre-droit, celui des classes moyennes supérieures ou des classes du CSP+, qui fait de la maîtrise de la dépense publique la mère de toutes les batailles, peut considérer que, en effet, Emmanuel Macron n'a pas rempli, si vous voulez, la mission qui était la sienne. Donc là, en effet, il y a une véritable difficulté. Ensuite, il a une équation personnelle d'un président qui a la communication qu'on lui connaît, c'est-à-dire une communication qui parfois peut être clivante. Et c'est vrai qu'à la limite, quand vous êtes, en deuxième partie de mandat, on n'y est pas tout à fait pour le second quinquennat, mais bientôt. On le dira bientôt.
On s'en approche.
La communication qui consiste à cliver est une communication qui ne facilite pas le lien avec l'opinion publique. Ceci dit, c'est un président qui a toujours su rebondir, un peu, vous savez, comme quelqu'un qui est sur un ruisseau et qui rebondit sur des roches, qui a su rebondir avec les crises. Finalement, on l'avait enterré avec la crise.
Mais c'est vrai qu'il en a eu beaucoup, ça.
On l'avait enterré avec la crise des Gilets jaunes, il a réussi à rebondir. On l'avait même enterré à un moment avec la crise sanitaire, il a réussi à rebondir. La crise internationale avec l'Ukraine lui a permis quand même, qu'on le veuille ou non, d'être réélu assez facilement lors de l'élection.
Ça lui a permis d'éviter les débats également.
Mais, je crois qu'il y a un aspect qui est très important et que Emmanuel Macron n'a pas véritablement intégré, c'est que les Français ne lui ont pas donné les pleins pouvoirs en 2022, puisqu'ils lui ont fourni, si je puis dire, une Assemblée nationale qui est une Assemblée nationale,
exactement,
en effet, sans majorité, et c'est ce qui vient certainement aussi entraver son action.
Ben merci beaucoup Arnaud merci Benedetti pour toutes ces explications. On va terminer avec des messages. Ça tombe sur l'appli RMC, Rémi.
Ouais, ce message de Michel qui nous dit « Salut l'équipe, je suis d'accord avec les résultats de ce sondage. Je faisais partie des soutiens d'Emmanuel Macron, mais quand je vois ce qu'il a fait pour les artisans indépendants, à part la non-saisie des biens immobiliers en cas de faillite, il n'a rien fait. Je suis toujours plus taxé. Le pouvoir d'achat de mes clients baisse, 0,7% de croissance. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est la récession. Et quand je regarde aux États-Unis et que je vois que le pouvoir d'achat des classes moyennes progresse, je me dis, pauvre France.
Ouais, mais alors, il progresse le pouvoir d'achat parce que
mais c'est moins redistributif aussi.
T'as des choses qui ont lieu aux États-Unis que personne ne supporterait en France. Bien dans sûr, la façon
de carte bleue pour aller à l'hôpital, par exemple.
Oui. Mais un tas de trucs de ce genre-là, quoi. Et ça, il faut que tout le monde en soit conscient. Ouais.
Trois quarts des Français mécontents de l'action d'Emmanuel Macron. D'accord, pas d'accord. Ça donne quoi notre sondage, Rémi ?
Eh bien, chez nous, en tout cas sur nos réseaux sociaux, pour ceux qui se sont prononcés, ils sont 89% à être d'accord.
Dans un instant, tiens, on parlera de Carlos Tavares. C'est le président de Stellantis. Il devrait toucher une rémunération de 36 millions d'euros pour cette année. Est-ce indécent, selon vous ? On en débat dans un instant dans Estelle Midi. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 32, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, avec aujourd'hui Rémi Barré, Thierry Moreau, Emmanuel Dancourt et Daniel Riolo. Et on va tout de suite s'intéresser dans Estelle Midi aux chiffres du jour. 36 494 025 euros, très exactement. Eh bien, c'est la rémunération de Carlos Tavares, le patron de Stellantis, qui sera votée aujourd'hui par les actionnaires du groupe. Une somme astronomique. Concrètement, Rémi, comment peut-on expliquer ce montant ?
Ce montant, il est présenté en détail dans le bilan annuel de l'entreprise, bilan portant sur l'année 2023. Il y a d'abord la part fixe du salaire du directeur général de l'entreprise, une base de 2 millions d'euros, auxquels s'ajoutent des avantages sociaux pour un montant de 634 697 euros, c'est précis, 2 700 euros notamment pour une voiture de fonction, ou encore 3 600 euros d'assurance santé. Ça, c'est pour le fixe. Vient ensuite, et surtout, une part variable de la rémunération du DG, qui représente 93% en fait, du salaire de Carlos Tavares. On y trouve notamment des primes à court terme, 5 785 800 euros, et des primes à long terme pour une somme de plus de 26 millions d'euros. Ah oui. Concrètement, le patron de Stellantis touchera dans un premier temps 23,5 millions d'euros, principalement sous forme d'actions. Le reste est constitué de bonus qui seront attribués seulement s'il est au rendez-vous d'objectifs fixés pour 2025. Des montants qui restent impressionnants et qui ne sont pas une première pour lui. En 2022, son salaire était évalué à plus de 66 millions d'euros pour l'année 2021, ce qui avait provoqué déjà la polémique. Emmanuel Macron, tiens, avait lui-même évoqué des sommes choquantes et excessives.
Alors, une rémunération de 36 millions d'euros pour Carlos Tavares, est-ce indécent, Emmanuel Dancourt ?
Alors, sur un plan économique, ça l'est pas. On est dans une entreprise privée, on est dans le capitalisme. Mais si on pose la question de l'indécence, c'est donc qu'on pose la question de la morale. Et la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on récompense, en fait, avec une somme pareille? Est-ce qu'on récompense le risque? Ben non, parce qu'il n'est pas entrepreneur. Donc, on ne récompense pas un risque. On ne récompense pas un investissement personnel. Il n'est pas propriétaire de Stellantis, ce n'est pas sa boîte. Si on compare avec quelqu'un qui gagne bien plus que lui, mais si on parle des entrepreneurs, on a d'un côté, on a Elon Musk qui gagne 10 millions par jour, mais c'est quelqu'un qui a créé sa propre fortune. Et puis à l'autre bout du spectre, eh bien, on a les entrepreneurs français de TPE, PME. 70% des patrons de TPE, PME, eux, gagnent moins de 4 000 euros par mois et même 20% sont en dessous du SMIC. Et c'est pour ça que c'est un problème, en fait. C'est parce que c'est la symbolique de cette somme. Donc là, on est déjà la morale. Et puis après, il y a une histoire d'éthique, et puis on pourrait peut-être même pousser une histoire même d'honneur, parce que ce monsieur, Carlos Tavares, en 2023, il a gagné en un jour ce qu'un salarié de Stellantis gagne en un an, c'est-à-dire qu'il gagne 518 fois plus qu'un salarié moyen. Et c'est cet écart, en fait, qui est très difficile à entendre.
C'est pas le même boulot non plus.
C'est pas, c'est pas le même boulot.
C'est pas le même responsabilité.
Justement.
C'est le même parcours.
Et en même temps, on récompense qui? Parce que Stellantis, il l'a pas fait tout seul. Déjà, c'est 15 entreprises, Stellantis.
Là, il a fait monter la boîte de 12%. Et on est avec. Le constructeur automobile s'en sort le mieux dans le monde, en fait.
Il a fait monter de 11% l'entreprise et de bénéfices, 50% au niveau de la cotation, en bourse. Donc, il fait gagner. Les actionnaires, tout à fait, pour les actionnaires. Et après, on a cet homme-là, Carlos Tavares, qui est quelqu'un qui vient d'un milieu assez basique, père comptable, maire, prof de français. Il s'est fait tout seul. Mais la question, en fait, c'est sur la symbolique. En réalité, qu'est-ce que ça représente à un moment où nous, on est, les Français de manière générale, pas les plus riches évidemment, sont le couteau sous la gorge. Et vous souvenez, Macron et le maire avaient dit il y a quelques années, c'est très excessif, il faut encadrer, etc. Mmh. Puis évidemment, il y a rien qui a été fait. Il a raison, Tavares, quand il dit, faites une loi.
Mais exactement.
Et je serai payé moins.
Mais moi, je suis d'accord avec lui. Il dit
il a raison.
Une loi faite par qui?
Sur la rémunération des grands dirigeants.
Mais c'est une entreprise mondiale.
Mais tu peux avoir un salarié privé, par exemple.
Mais c'est une entreprise mondiale et c'est une entreprise privée. Vous voulez qu'il y ait quoi comme loi?
Mais tu as des lois sur les entreprises aujourd'hui, donc tu pourrais très bien.
Au niveau mondial?
Mais c'est une entreprise française.
À partir du moment avec des actionnaires qui viennent du monde entier, qui ne sont pas que français.
À partir
du moment
où
ton siège social dans un pays qui n'est pas en France,
c'est au pays.
Tu es soumis aux lois du pays.
Et en l'occurrence, c'est pas en France.
Et de la même manière, si tu es ton siège en Union européenne, tu es soumis à des règles européennes.
Oui, donc en l'occurrence, donc il peut pas dire que c'est au gouvernement français de faire une loi. Il faudrait que ce soit une loi au niveau européen qui limiterait le salaire et les primes, parce qu'en l'occurrence, c'est la somme faramineuse, elle ne provient pas que du salaire qui de base est de 2 millions, mais d'un tas d'autres primes, et notamment de 10 millions consacrés à une prime parce qu'il a redressé l'entreprise en...
Mais il l'a pas redressé tout seul, cette entreprise. T'es d'accord, Daniel?
Bien sûr que oui.
Oui, mais c'est lui le patron.
Évidemment qu'il l'a pas redressé tout seul. J'essayais juste d'expliquer de quelle façon c'était réparti, même si Rémi a très bien décrit. Et d'ailleurs, on peut aussi constater que tout est transparent dans les différentes primes qu'il touche. Après, on peut quand même trouver ça indécent. Et moi, comme ça, quand je regarde, quand je vois que le patron de Volkswagen touche 8 millions, que celui de Ford 15, alors peut-être que ces entreprises marchent moins bien que Stellantis.
Oui.
Ok, très bien. Maintenant, on pourrait également dire que ça ne nous regarde pas et que si des actionnaires veulent lui donner ce salaire, eh bien, ils suivront ou pas les conseils de certaines agences, même américaines, qui ne doivent pas quand même être des agences communistes ou lambertistes, et qui déconseille aux actionnaires de voter ce salaire. Il y a 3 agences internationales qui déconseillent aux actionnaires. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, je crois, Tavares a vu son salaire retoqué parce que ces mêmes agences avaient dit que c'était trop. Donc, oui, on a le droit de se dire que c'est trop. Moi, ça me paraît complètement hallucinant. C'est limite plus qu'un salaire de foot.
J'ai regardé Mbappé.
C'est plus. Mais donc, on a le droit de dire que c'est faramineux, mais on a le droit également de penser que si les salariés trouvent que c'est dingue, les salariés en Europe, par exemple, ils ont qu'à faire grève pour avoir des plus grosses primes. Et je crois que les salariés ont des grosses primes et des gros intéressements.
Oui, c'est
peut-être,
sûr.
Peut-être que
c'est
pas assez.
Pas autant, 36 000.
Peut-être que c'est pas assez. Et dans ces cas-là, ils ont qu'à les réclamer. Et moi, je les encourage à faire des actions sociales pour avoir plus et qu'en gros, le gâteau soit un petit peu plus partagé. J'ai aucun mal à ça. Mais après, c'est une entreprise privée. Pardonne-moi de dire, mais ils se démerdent entre eux, quoi.
Alors, je vous mets un petit peu de côté, Thierry, parce que je voudrais qu'on prenne en ligne. Il est très pressé. Philippe, qui nous appelle de Toulouse et qui est chef d'entreprise, justement. Bonjour, Philippe.
Bonjour à vous tous.
Bonjour.
Regardez,
bonjour,
chef Philippe. D'entreprise comme Carlos Tavares. Vous voyez, il y a de l'espoir, Philippe.
Ben exactement. J'étais dans la voiture et j'écoutais le salaire de ce PDG. Et je travaille dans l'automobile depuis longtemps, un diagnostic. Et je me suis dit, mince alors, si j'étais quelqu'un, si j'étais un client de chez Peugeot et Citroën, je me suis dit 17 000 demandes par jour de panne d'Adblue, d'accord, qui ne sont pas entièrement pris en charge par Peugeot, 17 000 demandes par jour. Plus
là, vous parlez des moteurs, là, d'accord, mais là, oui, Philippe, on va rester sur le sujet, là.
Mais non, c'est le sujet. Est-ce qu'on peut donner autant d'argent à quelqu'un, ou qui est d'un côté, et d'autre côté, qui va spolier autant de gens, parce que tous les agents Citroën et Peugeot de France qui font bien leur boulot, ils reçoivent cette clientèle-là, c'est une clientèle qui est mort. Donc, quelque part, on donne de l'argent à quelqu'un, mais à la sortie, qui c'est qui cotise pour le payer, avec tous ces moteurs en panne, tous ces systèmes d'adéquation.
Oui, je comprends.
Panne,
non, mais là, je sens que vous êtes un déçu de la.
Comme ça.
Je sens que vous êtes un déçu de la marque.
Non, loin de là, ni la marque ni pas. Moi, je travaille dans l'automobile, donc c'est pas question de quelque chose. C'est on donne un salaire à quelqu'un et l'autre côté en bas, qui c'est qui paye?
Demandez. Oui, mais après, il n'est pas mécanicien, Carlos Tavares. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il est là pour redresser l'entreprise et pour vendre des voitures. Donc,
sur votre hashtag personnel, dites à tous les gens qui vous ont juste un petit coucou. Je lui ai dit, voilà, écoutez, moi, ça m'a coûté tant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous donnez un salaire à quelqu'un et puis ce salaire-là, la voiture en bas, elle marche pas.
Mais Philippe, dans ce cas-là,
il le mérite pas.
Mais qu'il le mérite ou pas, en fait, le problème, c'est que c'est même pas le débat. Et manifestement, il le mérite, puisque il y a 97% de son salaire qui sont des primes. C'est des primes de résultats. Donc, les résultats, on lui a fixé des objectifs, et ces objectifs, il les a atteints. Donc, qu'il le mérite ou pas, que ce soit trop ou pas, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, voilà, on lui a fixé les objectifs et il les a atteints. Après, les problèmes sur les moteurs Citroën, il est pas mécano, c'est pas lui qui fait ses moteurs. Donc, lui, il est là pour vendre des voitures et pour redresser l'entreprise. Merci, en tout cas, Philippe, d'avoir été avec nous. Thierry Moreau, indécent ou pas cette rémunération?
Alors moi, ça me choque pas, parce que je pense que c'est... Faut quand même rappeler que c'est quelqu'un... Peugeot perdait 5 milliards d'euros en 2012, et l'année dernière, la marque Stellantis, donc Peugeot devenu Stellantis, gagne 18,6 milliards. Donc on est passé de moins 5 milliards à 18,6 milliards. C'est un talent. Alors, il y a dans ce domaine des grands patrons, des mauvais grands patrons, des gens qui sont bons, des gens qui sont très bons et des gens exceptionnels. Je pense que Tavares fait partie des quelques patrons qui sont exceptionnels dans ce genre de business. Et donc, nous sommes dans un monde capitaliste où on récompense les gens exceptionnels de façon exceptionnelle. On se pose pas la question, vous en parliez tout à l'heure, avec les footballeurs qui gagnent, Mbappé gagne deux fois plus, je crois, ça choque pas.
Alors, ils sont pas nombreux à d'accord, gagner deux fois plus. Hein.
Bah, ils sont pas nombreux non plus à gagner ce que gagne Tavares, on va pas se mentir non plus. Mais donc, alors évidemment, un footballeur, c'est très visible ce qu'il fait. Quand il marque un but, il y a un charisme, il y a un spectacle, etc. Le patron de Stellantis, qui est dans son bureau, la carrière plus courte. Le patron de Stellantis, qui est dans son bureau, qui prend des décisions stratégiques, ça se voit moins, c'est moins spectaculaire, c'est moins charismatique. Même d'ailleurs, quelquefois, il prend des décisions extrêmement rudes. Donc, je me dis que, a priori, moi, ce qui me choque plus, je vais vous dire, c'est pas le salaire de Tavares, c'est quand un patron ne remplit pas ses objectifs, marche pas, qu'il est viré et qui touche quand même son parachute doré ou qui joue quand même une retraite monstrueuse. Ça me choque. Ce qui me choque aussi, c'est les chercheurs, parce que on parle des footballeurs, on parle des grands patrons, les chercheurs qui trouvent des choses dans la recherche fondamentale tout à fait importantes pour l'humanité, donc pour nous, pour le futur, pour les labos, etc., ne sont pas payés ces sommes-là et sont payés de manière ridicule. Ah bah non, ils sont même obligés d'aller bosser à l'étranger et d'aller bosser dans des entreprises privées. Donc, il faudrait que ce genre de salaire soit aussi important quand on a des gens qui sont des chercheurs fondamentaux, des chercheurs en santé qui se décarcassent et qui découvrent des choses formidables. Et puis aussi, effectivement, le fait que c'est un type qui est exceptionnel. Donc, tout le monde se l'arrache et donc on le paye pour le garder.
Mais c'est vrai qu'on a beaucoup tapé sur Patrick Pouyanné, le patron de Total. Patrick Pouyanné, il est que peu, entre guillemets, à 10 millions d'euros. Donc après, c'est aussi normal que ça tombe un petit peu sur Carlos Tavares, parce que encore une fois, c'est quand même c'est une entreprise française qui produit en Chine, hein, quand même, Stellantis, et dont le patron gagne 36 millions d'euros. Donc,
mais qui est passé de moins 5 milliards à plus 18.
Oui, mais après, tu peux aussi te questionner. Encore une fois, je veux dire, franchement, que tu gagnes 10 millions ou 36 millions, je veux dire, c'est pareil. Hein. À mon avis, ton train de vie n'est pas affecté. Il aurait pu, oui. Mais à un moment, tu peux aussi, quand t'es patron, quand tu gagnes ces sommes-là, dire, même si symboliquement, je veux dire, il renonce à 5 millions, c'est pas énorme. Mais par exemple, s'il disait, je renonce à ma prime de 10 millions, il a, je crois, 30 millions de primes, t'as dit Rémi. Il renonce à sa prime de 10 millions en disant, je préférais que ce soit redistribué entre les salariés, etc. Mais on lui fait une statue devant Stellantis, tu vois. C'est symbolique. Je veux dire, ça lui enlève rien et ce serait plutôt joli, je
crois. C'est une question, mais je sais que tu vas me répondre, t'as la réponse. Mais d'ailleurs, Carlos Tavares se compare, on lui a posé la question sur sa rémunération, à certains sportifs de haut niveau.
Exactement.
Est-ce que certains ont dit la même chose à certains sportifs de haut niveau? On leur dit parfois, oui, il faut redonner, etc.
Mais c'est pas. Si, t'entends toujours des. Ces sommes-là pour taper dans un ballon.
Mais c'est ce que je dis. On a le débat sur l'indécence.
C'est ce que je vous dis.
Mais encore une fois, quand c'est des entreprises privées et que ça ne prend rien au public, qu'ils se débrouillent entre eux. Les actionnaires, encore, il y a des agences, on va pas répéter, qui leur conseillent de pas valider. Eh bien, elles suivent ou non les conseils. Et puis voilà. C'est plutôt aux salariés dans la boîte de se dire, c'est absolument indécent tout ce qu'ils touchent par rapport à nous. Filez-nous des primes, filez-nous de l'intéressement.
Ils ont eu 4100 euros de primes d'intéressement.
Moi, c'est pas
4100 euros moyenne pour l'ensemble des salariés de Stellantis.
Moi, si j'étais chez Stellantis, il est probable que je me dise, c'est pas assez.
Ouais, c'est ça, je réclame un intéressement supplémentaire.
Je réclamerais plus, j'irais dans un syndicat pour dire allons-y, il peut pas toucher autant alors que nous, on touche aussi peu.
Rémi, on termine avec des messages, les résultats de notre sondage.
Allez, ce message de Thierry qui nous dit « Moi, ce salaire, je ne le juge pas indécent, j'entends ceux qui critiquent, oui, c'est beaucoup d'argent, mais encore une fois, comme tu le dis, Daniel, à l'instant, c'est une entreprise privée et s'il touche cet argent, eh ben, c'est qu'il le mérite. » Voilà ce que nous dit Thierry.
Alors, est-ce indécent cette rémunération? C'est la question qu'on vous a posée sur le compte Twitter d'Estelle Midi.
Ah, c'est pas le même son de cloche sur nos réseaux sociaux. Pour ceux qui ont participé à la consultation, c'est oui, c'est indécent pour 70% de ceux qui ont voté.
La force du symbole.
Dans un instant, restez bien avec nous, vous avez tous entendu cette phrase, mal de dos, mal du siècle. Eh bien, Anthony Morel viendra sur ce plateau et va résoudre ce mal du siècle. Justement, il va nous parler d'une petite piqûre révolutionnaire entre le mal de dos. Le mal de dos, bientôt, c'est fini. À tout de suite sur RMC.
RMC, Estelle Midi. RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est midi 50, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, et c'est le moment d'accueillir Anthony Morel, on n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi,
on n'arrête pas le progrès.
Et aujourd'hui, Anthony, on parle d'un progrès qui risque de faire pleurer de joie des millions de Français. Vous savez ce qu'on dit, le mal de dos, c'est le mal du siècle. Ouais. Et vous avez un remède contre le mal de dos qui pourrait soulager des millions de personnes.
Absolument. Alors, c'est pas moi qui ai le remède, hein, évidemment. Ce sont des laboratoires de recherche américains qui ont mis au point, écoutez bien, un gel injectable qui permet de réparer les disques vertébraux. Un gel. C'est-à-dire que quand vous allez faire réparer votre pare-brise, hein, on injecte une résine spéciale. C'est un peu la même chose, pour le dos.
Il faut que la blessure soit de la taille d'une pièce de 2 euros.
Voilà. Et c'est remboursé à ce moment-là. C'est très pratique. Non. Alors, très sérieusement, et il ne s'agit pas de donner des faux espoirs aux gens parce que c'est un traitement encore expérimental pour l'instant. Mais en gros, le gros des maux de dos, c'est pas toujours le cas, mais c'est des disques intervertébraux qui dégénèrent. Les disques intervertébraux, c'est ça sert de d'amortisseur entre les vertèbres, et donc là ils ne jouent plus leur rôle de coussin à cause d'un accident, à cause de la pénibilité au boulot, etc. Et donc là, ce qu'ont mis au point ces chercheurs, c'est donc un hydrogel. On va l'injecter, une petite piqûre, donc on vous injecte ça à l'état naturel, j'allais dire, c'est liquide, mais quand ça entre dans le corps, ça devient solide et ça va venir s'insérer dans toutes les petites fissures, dans toutes les petites déchirures de ces disques abîmés. Ça va durcir un peu comme du ciment qui prend et ça va en fait donner une deuxième jeunesse, si vous voulez, aux disques intervertébraux, et ça va redonner une forme de flexibilité, enlever la raideur qu'on peut avoir dans le dos et permettre aux gens de ne plus avoir mal. Alors encore une fois, c'est expérimental, il y a eu des tests qui ont été réalisés sur une vingtaine de patients pour l'instant, âgés de 22 à 69 ans, qui avaient des lombalgies chroniques. Ouais. Les traitements classiques ne les soignaient pas, ne soignaient pas leurs douleurs. Et bien tous, au bout de 6 mois après l'injection, n'avaient absolument plus mal et avaient retrouvé forme de mobilité. Encore une fois, il va falloir tester ça à beaucoup plus grande échelle, mais c'est, on va dire, assez prometteur pour les millions de personnes qui souffrent de maux de dos.
Mais c'est vrai que ça va arriver quand sur le marché ?
Alors, on peut espérer que d'ici... là, ça a été approuvé par la FDA, donc c'est l'autorité américaine de la santé. On peut espérer que d'ici un ou deux ans, je pense, que ça arrive sur le marché.
Et pour ceux qui ont vraiment très très mal au dos et qui ne peuvent pas attendre deux ans, est-ce qu'il y a d'autres innovations pour les soulager ?
Bah, c'est compliqué. Alors, on peut déjà faire un peu de prévention. En amont, par exemple, du pour sport. Éviter... Alors, du sport très important, évidemment, du renforcement musculaire, des étirements... Éviter les mauvaises postures aussi. Alors là, on a par exemple des capteurs de mauvaises postures. Alors on peut porter ça, donc c'est un petit patch comme les patchs anti-tabac. On se met ça entre les omoplates. On va pas porter ça à vie. Hein. Vous mettez ça pendant une semaine et ça va vous montrer toutes vos mauvaises habitudes en fait.
C'est génial. Ça
va mesurer à chaque fois que vous prenez une mauvaise position, que vous êtes avachi sur le canapé, que vous avez le dos voûté, que vous prenez un paquet en vous penchant vers l'avant. Mmh. Et ben ça va vous envoyer une énorme décharge. Non, pas une décharge électrique. Ça va vibrer très légèrement pour vous dire là vous faites un truc qui est pas bien. Et en fait c'est réflexe pavlovien quoi. Au bout de quelques fois, vous avez ce réflexe. Vous ne faites plus les mauvais gestes en fait. Ça c'est plutôt intéressant.
Donc vous l'achetez où ce truc ?
Alors ça on peut le trouver sur internet. Il y a plusieurs modèles qu'on peut trouver comme ça. Si vous tapez capteur de mobilité pour le dos. Et alors c'est des outils qui vont s'intégrer bientôt dans les écouteurs pour smartphone. Il y a plusieurs marques qui travaillent là-dessus. En fait vous aurez des capteurs de posture directement dans les écouteurs qui permettront via une application de savoir à peu près si vous vous tenez bien pendant la journée quoi.
Il y a aussi des applications mobiles anti mal de dos. Ça marche ça ?
Oui alors il y a à boire et à manger vraiment. Oui. Mais je voulais vous parler d'une application française que j'ai rencontré les fondateurs. Il y a pas très longtemps, qui est vraiment pas mal, qui a été créé par des professionnels de santé. Ça s'appelle Doado, D-O-A-D-O. Mmh. En gros, on va vous proposer plein d'exercices de rééducation. Bah si, mais c'est bien.
C'est chiant.
Non, c'est pas chiant. Mais non, c'est pas
on n'a pas envie.
Mais... non, mais d'abord, vous faites un petit bilan. On vous dit, voilà, s'il faut aller chez le médecin, on vous dit, il faut aller chez le médecin et vous apportez votre petit bilan. Et sinon, on va vous proposer du renforcement musculaire, des petites vidéos
d'entraînement. C'est Véronique et Davina.
Mais non, ça va plus loin que ça. C'est des kinés, là, pour le coup. Donc, c'est plus personnalisé. Non. Si vous voulez pas avoir mal de dos, faut choisir.
Non, mais j'attends la piqûre. Moi.
Ah oui, la piqûre, c'est bien, ça c'est vrai.
Bah, évidemment. Merci beaucoup, Anthony, pour tout cet espoir donné à ceux qui ont mal au dos. Ouais. On parle de quoi demain ?
Demain, de votre passion, les aspirateurs.
Ah, j'ai.
Le fameux, je voulais.
Qui monte l'escalier.
Ah non, ça j'en ai déjà parlé.
Ouais, mais il n'est pas encore.
Bah oui, d'accord. Non, pas celui qui monte l'escalier, celui qui vous montre que vous avez absolument pas raté un grain de poussière.
Ah, mais j'ai déjà ça.
Mais non, vous l'avez
ah,
pas.
Ah si, j'ai le Dyson avec le Blue Star.
Mais non, le mieux. Je
avec
vous
la petite lumière qui montre la poussière.
Mais non, là c'est encore mieux.
Non,
là c'est encore mieux.
Les films. Et qui passe le soir.
Oh, c'est génial. Non, j'en ai un moi avec, tu sais, la police scientifique quand il y a un mort et qu'il cherche du sang. Il met une lumière bleue.
Le Blue
Star. Et tu vois le Blue Star. Et ben moi j'ai mon aspirateur, il fait ça sur la poussière.
C'est l'étape d'après encore. C'est encore mieux.
Ah bon ?
Mais oui. Mais je voulais envoyer l'autre jour.
Mais je sais, je l'ai vu, mais il montait pas les escaliers. Ça m'intéresse pas. Merci beaucoup Anthony Morel. Vous pouvez retrouver en tout cas cette chronique sur le mal de dos en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de télé chargement. Dans un instant, on parlera de l'opération séduction du jour de la part du président de la SNCF qui a offert beaucoup d'avantages à son salarié.
Après, séduction.
Et après,
ça marche. Ah ben, ça a bien marché.
Direct,
ah ben,
hein.
Écoutez, c'est la première fois qu'on voit la CGT heureux.
Et même Sudrail.
Et même
Sudrail. Ils ne le disent pas,
mais ils ont ouvert le champagne.
Ils vont signer, mais discrètement.
Bref, des avantages pour éviter les grèves. Est-ce que c'est logique ou choquant ? On en parle avec vous dans un instant. Au 32-16 et sur l'appli RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.